Utsita.
Utsita.
Attitude.
Attitude.
Utsitanitude.
Une émission préposée par Radio Languedoc. Présentée par Jean Tufou. Et réalisée par William Baudry.
Nous sommes dans l'Occitanitude de Thierry Arquet. Bonjour Thierry.
Bonjour Jean Tufou.
Voilà, donc Thierry Arquet, instituteur à la retraite. Bon, si on veut, hein, la retraite, on n'est jamais à la retraite quand on s'appelle Thierry Arquet. Collaborateur de l'Héros du Jour, inventeur d'un festival d'antan dont on parlera, qui s'appelait le festival donc du printemps des Bouzes, si je ne m'abuse.
Oui.
Ensuite, docteur en sociologie, on en parlera aussi, et écrivain. Écrivain. Et on oublie le principal, figurolien, je crois, voilà, qu'on dit comme ça. Mmh. Ah ben là, je crois qu'une fois qu'on a dressé tout cela, ça fait vraiment un inventaire complet pour pouvoir donc attaquer cette occitanitude de Thierry Arquet. Donc Thierry, d'abord, figurolien, j'ai envie d'attaquer par la définition de ce mot.
Oui, oui, donc né à Figuerolles en 1954... Et au hasard de tous les voyages que j'ai pu faire, que ce soit dans le département de l'Hérault, que ce soit à l'étranger, j'ai toujours ressenti mon appartenance à ce quartier. Ça a toujours été mon lieu de référence. C'est perdu au fin fond de l'Amérique centrale. Je, dans les moments d'un petit peu de nostalgie, je me revoyais... à Figuerolles, dans les lieux que je connaissais, avec les gens que je connaissais, etc. Et donc c'est ce qui a fait que je me suis vraiment toujours senti comme étant figuerolien avant toute chose.
Alors figuerolien, bien entendu, mais Figuerolles, ça veut dire quoi? Parce que généralement on peut extrapoler autour du mot, c'est quoi l'étymologie de ce mot?
Alors évidemment, Figuerolles, c'est un lieu planté de figuiers, la signification donnée par les étymologistes les plus renommés, mais le problème de Figuerolles, c'est que bon, c'est pas directement le figuier ni la figue qui est à l'origine du nom de ce quartier, parce que bon, d'abord des figuiers il y en avait partout, il n'y en avait pas plus ici qu'ailleurs, mais je me suis aperçu en faisant des recherches dans les archives que ce nom apparaissait très tardivement dans l'histoire du quartier, et le chemin qui remplaçait l'actuel faubourg Figuerolles, enfin le chemin était pas exactement au même endroit. Il s'appelait le chemin de la Vérune à Montpellier. Donc aujourd'hui on a tendance à parler d'une route qui sort d'une ville et qui va vers quelque part. Et c'est le fait que ce soit l'inverse, c'est quelque chose qui avait beaucoup surpris les enfants de l'école Auguste Comte. Et dans leur tête, eux, ils habitaient Figuerolles et puis ils partaient, mais ils ne pensaient pas qu'on puisse... C'était lié au commerce. Donc les gens venaient des villages alentours pour vendre des choses à Montpellier. D'ailleurs, le surnom de ce chemin, c'était le chemin des vinaigrières. Donc c'était des dames qui apportaient du vinaigre, qui servait à ce moment-là à fabriquer du verdet, c'est-à-dire du verre de gris, qui était très prisé par l'industrie. Donc il y avait pas mal d'argent à gagner, donc on mettait du cuivre dans du vinaigre selon des procédés assez, assez complexes. Et donc voilà... C'était le nom de Figuerolles apparaît pas du tout. Alors il apparaît très tard, il apparaît au début du 19e siècle. Alors entre le début du 19e et la fin du 18e, le nom commence à apparaître sur des indicateurs de rue, etc. Alors bon, pourquoi si tard alors que le Figuerolles était déjà développé? Donc une piste m'avait été donnée par un ancien habitant au sujet d'un personnage qui se serait appelé Estorc de Figuerolles. Et donc j'ai concentré mes recherches là-dessus. Donc il y avait en fait ce personnage-là qui habitait dans le centre ancien de la ville et qui était originaire d'une riche famille de drapiers. L'industrie du drap, c'était quelque chose à Montpellier. Et... Ce fameux Estorc de Figuerolles, la personne elle-même, était donc noble et avait été en même temps engagé comme garde du corps du roi, c'est-à-dire ce qu'on appelait la garde écossaise. Donc c'était un critère de qualité, parce que bon, pour être garde du corps du roi, il fallait être donc noble, ce qui était le cas, et il fallait être d'une adresse consommée particulière au maniement de toutes les armes. Donc, il s'est trouvé que Estorc de Figuerolles a acheté un mas, qu'on appelait le mas d'Estorc, qui se trouvait à peu près à la Chamberthe. Et donc, il partait du centre-ville, de chez ses parents, à cheval, et emprunter ce qui est devenu la rue de Figuerolles, la rue Figuerolles. Et vous imaginez le respect qui était dû à cet homme noble, altier, qui passait à cheval. Et donc c'était la rue par laquelle il passait, c'était la rue Figuerolles. Et si tout a mal fini pour lui, puisque Estorc de Figuerolles a été raccourci à la Révolution française, étant donné qu'il était très proche du roi et donc en première ligne pour affronter les révolutionnaires. Donc il sera guillotiné à la Révolution française. Il n'empêche qu'il a profondément donc marqué l'histoire du quartier. Et à partir de cette rue qui a hérité de son nom, le faubourg a pris le même. Donc, et c'est sûr que pour notre ami Estorc, le nom Figuerolles venait bien de lieux plantés de figuiers. Mais c'était sa famille qui en avait hérité pour des raisons lointaines et obscures. Que j'ai pas pu élucider, mais enfin bon, c'était vraisemblablement des propriétaires de figuiers ou des gens qui avaient habité sur bon, mais c'est pas directement le figuier ni la figue qui sont à l'origine du nom de Figuerolles, même si des explications parfois cocasses hein. Bon, j'en avais une qui me plaisait beaucoup, c'était le fait que ça venait de l'étymologie du nom viendrait de figue, le fruit, et de rôle, qui étaient les lettres à l'époque, hein, des lettres enroulées, dérivées de rouleaux, hein, voilà. Et un facteur qui se serait endormi sous un figuier, qui aurait perdu son rôle, etc. Bon, enfin, voilà, c'était donc c'est pas la seule explication.
C'est plus poétique que.
C'est plus marrant. C'est agréable. Et voilà. Les recherches ont donné cette explication qui est pas mal non plus, hein, qui surprend un peu tous ceux qui sont attachés à l'étymologie brute de décoffrage et qui veulent trouver un figuier derrière Figuerolles. Donc c'est un nom de seconde main, on dira. C'est,
voilà. Et ce quartier, alors, il voit le jour, il se construit autour de ce chemin de Figuerolles. Comment il évolue, comment...
Alors, il faut donc savoir que c'est un quartier qui émerge relativement tard. Pour la bonne raison que habiter hors les murs était extrêmement périlleux. Il y avait du brigandage, il y a eu les guerres de religion. Il y avait toujours une bonne raison de se faire massacrer quand on n'était pas protégé par les murs de la ville. Donc, quand on regarde les plans anciens, on voit qu'il y avait des cultures tout autour de la ville, mais qu'il n'y avait pas d'habitation. Il y avait quelques places fortes, dont une à Figuerolles, hein, qui était une sorte de bastion fortifié qui était tenu par une congrégation religieuse. Il y en avait plusieurs. Et par contre, il n'y avait pas d'habitation. Et ce sera seulement après la victoire de Louis XIII sur les protestants, à partir de 1622, que la ville va pouvoir se développer hors les murs. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a une certaine pacification, la présence de contrôles plus établi sur qui entrait, qui sortait. On va voir les octrois se déplacer de plus en plus loin autour de la ville. Et à partir de ce moment-là, les constructions ont pu commencer à se développer. Alors, bon, c'est donc plus tard. Donc c'est à partir des années 1700 que le faubourg Figuerolles commence à se construire vraiment. Et ce qui est surprenant quand on regarde les plans anciens aux archives, c'est qu'on a affaire à un habitat extrêmement concentré. Des petites rues qui font parfois à peine un mètre de large, hein, on n'avait pas besoin de beaucoup de place, et aucune des grandes artères, le boulevard Pélissier, la rue Guillaume-Pélissier, pas plus que les places importantes, la place Saint-Lingros, le plan Cabane, n'existaient. C'était des conglomérats de maisons serrées les unes contre les autres, donc on habitait au plus pressé, on pouvait construire a priori sans beaucoup de contrôle. Et ce sera plus tard, après, à partir du mouvement des percées haussmanniennes de la ville, que seront créées et ces ouvertures, rue Guillaume-Pélissier, boulevard Renouvier, et les places, place Salengro, plan Cabane, qui avaient pour but d'aérer un petit peu d'aérer un petit peu le quartier.
En fait, c'est une sorte de village hors les murs, au départ.
Voilà, c'est un village qui s'est développé. Enfin, c'est pas seulement un village particulier, c'est vrai que toute la ville s'est développée de façon radioconcentrique, hein, tout autour des fortifications. Parce qu'il y avait la pacification, parce qu'on pouvait y habiter sans se faire étriper par une quelconque bande de malandrins, puisqu'il y avait un contrôle militaire, policier, etc., qui mettait les habitants sous protection. Et donc, à partir de ce moment-là, la ville a pu grandir, a pu s'étendre. Mais vous voyez, ça arrive assez tard par rapport à l'histoire de la ville qui remonte au Xe siècle. Il aura fallu attendre 600 ans plus de 600 ans pour que les quartiers extérieurs puissent se développer.
L'ensemble Ignition pour première pause musicale de Thierry Arquet. Pourquoi vous avez choisi ce titre ?
Alors, le titre et surtout les interprètes, hein, puisque c'est une musique qui me tient à cœur, étant donné que elle est interprétée en partie par mon grand-fils, qui a fait ses études ici à Montpellier, au conservatoire de région. Et donc qui est depuis son solo à l'Opéra de Rouen et membre de l'ensemble Initium. Et donc ça représente pour moi en même temps toutes ces années qu'on a pu passer à le conduire au conservatoire, à le suivre, à le soutenir, à le former. Puis c'est un peu le cœur de père qui... C'est un peu mon histoire de Figaro, l'histoire passée en famille et tout, qui est là présente dans ses notes.
Nous restons dans l'Occitanitude de Thierry Arquet, avec une anecdote plus personnelle liée à son fils, à la musique, et un certain nombre de pratiques musicales liées au démarrage donc au conservatoire de Montpellier. Mais nous étions donc sur l'histoire de Figaro et nous n'allons pas le quitter d'un moment. Donc Figuerolles, donc nous sommes à la période donc où les quartiers s'ouvrent parce que bon les dangers sont moins importants, et partant de là donc ce quartier rentre en mouvement sur des espaces de commerce, de chalandises et autres. Alors, racontez-nous un peu comment ça démarre, puisque là, on en est au démarrage, 6 siècles après le démarrage de Montpellier.
Oui, alors, parmi les artisans remarquables du quartier Figuerolles, c'était avant tout ce qu'on a appelé les fustiers. C'est lié à l'industrie de la vigne, on y fabriquait des tonneaux. Et alors, il y avait plusieurs fabricants de tonneaux qui, au fil du temps, vont se transformer en menuisiers, quand la vigne cessera d'avoir son influence. Lié aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, à la vigne, se trouvait l'industrie du verre d'ais, donc fabriquer du verre de gris. Lié aussi à cette même industrie, c'était celle du tartre. Donc, on fabriquait du tartre à partir de... Vous savez, le tartre, c'est ce qui se dépose au fond des tonneaux. Et que les gens raclaient et puis récupéraient et comment dire, utilisaient des moulins pour le briser, le purifier dans de l'eau, et vendaient tout ça aux industries pour une foule d'usages. La plus connue est celle de la pâtisserie, mais il y avait beaucoup d'utilisation possible du tartre. Et à un moment donné, c'est devenu... une source de revenus très importante pour les viticulteurs, à savoir que on leur conseillait même de pas construire de citernes, de cuves en pierre, mais de les garder en bois parce que le tartre était plus facile à récolter dans les foudres que dans les citernes. Donc c'est dire, ils faisaient ce choix-là, c'est dire l'importance que pouvait avoir le tartre par rapport au vin.
Il y avait toute une économie complémentaire donc liée au tartre.
Voilà, lié, c'était grosso modo, c'était la viticulture. Alors bon, la viticulture, les jardins aussi occupaient une grande place parce que il y avait pas mal d'espace. Figuerolles n'était pas construit, enfin ça s'arrêtait très vite, hein, au niveau de un peu où se trouve la cité Gélie aujourd'hui. Il y avait vraiment plus rien, il n'y avait plus que des domaines, l'endroit où se trouve Radio Languedoc, c'était sur des plans pas très anciens, on y trouve des grandes parcelles de culture. Donc, c'était tout utilisé, tout semé, tout. Et donc, voilà, c'était par exemple le quartier des Saints, qui est avec les rues Saint-Étienne, Saint-Antoine, Saint-Honoré, Saint-Blaise, appartenait à un jardinier qui s'appelait Blaise Martel. Et qui a décidé un beau jour de vendre ses jardins, d'en faire des parcelles. Et donc il a créé des rues, et à toutes ces rues il a donné le nom de membres de sa famille. Bon, alors lui il s'appelait Blaise, il y a eu la rue Saint-Blaise, puis il en avait Honoré, etc., Étienne, qui ont pris leur nom pour les rues, avec quelques petites coqueteries, on dira. C'était la rue de Metz avait été appelée la rue Napoléon, et puis la rue du Nord, parce qu'elle était orientée, elle était au nord du quartier. Bon, et puis voilà, d'autres, Haguenau par exemple, la rue Haguenau c'était aussi le nom d'un jardinier. Et bon, on retrouve en feuilletant les archives des traces importantes de cette activité qui se développait à ce moment-là. Les ventes de produits étaient réalisées d'une part par les petits commerces, hein, il y avait beaucoup de petits commerces indépendants, et puis aussi par ce qu'on a appelé des baladeuses. C'est-à-dire les baladeuses, c'était généralement des dames qui vendaient ça pouvait être des poissons, ça pouvait être des légumes, ça pouvait être des petits escargots qu'on appelait des cagarolettes, vous devez bien connaître ici, et qui se promenaient avec des charrettes, et donc elles se baladaient, on les appelait les baladeuses. Alors c'était des formes, alors des marchés qui étaient légaux ou illégaux, autorisés ou pas autorisés. Bon, elles se mettaient où elles voulaient, dans des conditions d'hygiène qui étaient ce qu'elles étaient. Un autre aspect important aussi de l'économie locale, c'était l'élevage. il y avait énormément dans le quartier de ce qu'on appelait des vacheries. C'est-à-dire les vacheries, c'était des étables dans lesquelles, évidemment, il y avait des vaches, il y avait des taureaux, il y avait... Enfin, il y avait des taureaux, il y en avait un de temps en temps. Il y avait des ânes. Alors, c'est assez curieux de voir que l'âne était utilisé, enfin, les ânesses étaient utilisées pour leur lait. Et le lait d'ânesse est très bon, non pas pour la peau comme on l'utilise aujourd'hui, mais surtout pour les bébés, les nourrissons. Et alors, ce qui était amusant, c'est savoir qu'on faisait téter les nourrissons directement au pied de l'ânesse. Et qu'il faut pas, il était recommandé de laisser toujours un ânon à l'ânesse, parce que sinon, elle cessait de produire du lait, même si on lui en prenait, il fallait qu'elle soit tétée par son ânon. Et donc, de la sorte, on obtenait, dans des conditions d'hygiène curieuses, hein, vous imaginez le bébé qui tète directement au pied de l'ânesse. On avait toute une activité. Alors après ça, on imagine un petit peu l'odeur qui devait régner dans le quartier, ce qui en avait beaucoup, beaucoup, avec les tas de purelles. D'ailleurs, ça a fait l'objet de nombreuses notes hygiénistes. Et donc, à partir de 1920, il commençait à y avoir une guerre pour faire fermer toutes ces vacheries, pour les déporter plus loin. Et la Seconde Guerre mondiale fera que certaines perdureront, parce qu'il fallait quand même bien se nourrir et elles apportaient un complément alimentaire certain. Donc ce sera après la Seconde Guerre mondiale qu'elles disparaîtront toutes peu à peu.
Ces populations dont on parle, de tous ces petits métiers, on va dire les petits métiers, elles venaient d'où ces populations ?
Alors voilà, il y a toujours eu à Figueroles une immigration venue de tous azimuts. Alors, il y avait les grands événements, il y a eu les grands événements internationaux qu'on a pu voir récemment, mais il y avait aussi une immigration intérieure, hein, c'est-à-dire que les gens qu'on a appelés les Gavatch, qui venaient de Lozère essentiellement, de Lozère, de l'Aveyron, qui venaient s'établir à Montpellier, en ville, parce qu'ils estimaient que là, ils pourraient avoir une carrière plus florissante, et qui ne cessaient de venir s'installer. C'était pas des générations qui naissaient comme ça, des générations spontanées de gens, de menuisiers, de vachers, etc. Non, ça venait effectivement de partout. Bon, alors, ensuite, on a vu s'amplifier ce phénomène migratoire avec la guerre de 14, avec la population italienne qui est venue notamment remplacer tous les gens qui avaient été massacrés durant la Première Guerre mondiale, avec la guerre d'Espagne, avec les rapatriés d'Algérie, avec les immigrés d'Afrique du Nord, etc. Bon, ça n'a pas arrêté par la suite, en lien avec des événements intérieurs ou extérieurs, d'affluer. Et donc ça a toujours été explicable parce qu'il y avait des places vides. Quand on regarde l'expansion des commerces maghrébins dans le quartier Figueroles, il faut voir qu'ils ont été favorisés, je dirais, un peu appelés par l'abandon des locaux commerciaux dans les années 60-70, à partir du moment où les supermarchés ont ruiné en quelque sorte les petits commerces qui n'avaient plus la possibilité de vivre. Donc ils ont abandonné ces commerces, ils sont restés vacants. Et donc, heureusement, ils ont été repris avec brio, puisque maintenant, le quartier Figueroles est un quartier extraordinairement animé, et grâce à cette effervescence.
Dans un coin perdu de montagne, un tout petit Savoyard chantait du soir près de sa bergère au doux regard. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, je fais serment. Hélas, soupirait la bergère, que répondront nos parents? Comment ferons-nous? Nous n'avons pas d'argent pour nous marier dès le printemps. Étoile des neiges, sèche tes beaux yeux, le ciel protège les amoureux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour, à tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. Et quand les beaux jours refleurirent, il s'en revint au amour. Et sa fiancée l'attendait tout là-haut, parmi les clochettes des troupeaux. Étoile des neiges, tes garçons d'honneur vont en cortège, portant des fleurs. Par un mariage, finis mon histoire de la bergère et de son petit savoyard.
C'est la quinzaine commerciale de Figuerolles. Les pavillons crépitent, les pavillons gris, on les appelait les micros, je crois, c'était des grands systèmes d'appel à la population, et une sorte de musique en boucle, c'est Étoile des Neiges.
Voilà, alors l'histoire est cocasse, enfin pour ceux qui ont vécu cette période-là, puisque bon, la quinzaine commerciale avait été impulsée par la Commune libre de Figuerolles déjà dans les années 50, et puis elle a été continuée, reprise par les commerçants du coin. Et donc le souvenir qui m'en reste, enfin je ne suis pas le seul à qui ça reste, c'est d'avoir entendu cette chanson très très souvent, pour la bonne raison que les organisateurs de la quinzaine commerciale avaient très peu de disques, c'était des disques vinyles. Et alors celui-là, il leur plaisait particulièrement parce que donc il le passait sans arrêt. Donc c'était la couleur de la quinzaine commerciale. Que cette chanson, qui en fait est une ode à la bergère et au ramoneur, hein. Le petit savoyard, c'est un ramoneur, donc en lien avec le conte d'Andersen, plus récemment avec Le Roi et l'Oiseau, et c'est ce mythe-là. Alors c'est un petit coup de cœur, c'est un souvenir qui était finalement très très agréable, et enfin, moi personnellement, ça me fait bien plaisir de l'écouter, de vous le proposer à tous.
Voilà, donc Lino Renault qui accompagnait donc les Figuerolliens pendant ces quinzaines commerciales qui ont perduré quelques années.
Oui, 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 ça, oui, je ne saurais pas dire, je pense que jusqu'aux années 70 ça a dû durer, oui.
Donc, c'était quand même un peu un côté quartier-village, quoi.
Oui, 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 c'était des moments très agréables, hein. C'était un peu la fête dans tout le faubourg, avec des offres promotionnelles, avec des sortes de loteries, des choses comme ça. Bon, ça mettait vraiment un peu d'animation, quoi. C'était rigolo. Donc on sortait, les jeunes, bon, on n'était pas très consommateurs puisqu'on était jeunes à l'époque, mais c'était l'occasion de se rencontrer, c'était sympa.
Est-ce que les jeunes montaient et descendaient la venue de Figuerolles? Est-ce qu'il y avait ces grandes balades de jeunesse, hein?
Oui, oui, mais c'était une autre dimension. C'est-à-dire que, bon, déjà, il y avait beaucoup moins de circulation automobile. Il y en avait, pour ainsi dire, très peu. Et puis, il y avait... c'était l'époque des mobilettes. Donc, on était tous avec notre bleu ou notre malaguti. Et donc, on était par petites bandes, par petits groupes, hein, les voyous du quartier. Et les piches, comme on nous appelait à l'époque. Et puis, voilà, donc, par... oui, oui, c'est sûr. Et on était des petits clans, des petites bandes. Et voilà, oui, c'est certain.
Alors, vous avez tout à l'heure fait allusion à la commune libre de Figuerolles, comme on est à Radio Languedoc, je veux dire, des Quesaco.
Ah, la commune libre de Figuerolles. Alors ça, c'est une création tout à fait originale, dont l'origine revient aux membres du Parti communiste, qui étaient à l'époque très nombreux à Figuerolles. Et l'idée est partie au départ du respect, du grand respect qu'ils pouvaient avoir pour la commune de Paris, qui avait déjà été déclinée à Montmartre, pour la création de la commune libre de Montmartre, et qui avait un petit peu, comment dire, honoré ce côté, cette grande période libertaire et de lutte qui avait, pendant très peu de temps, il avait été créé des libertés, le vote des femmes, etc., des choses qui n'existaient pas. Et donc, c'est sûr que ça avait marqué l'imaginaire collectif. C'était resté une sorte d'archétype qui, après, a été décliné en stéréotype, comme ici, pas seulement à Figuerolles, mais dans d'autres communes de France, où un petit groupe de gens a créé une commune libre qui n'avait rien à voir avec le maire, le vrai maire, etc., mais qui était à la fois quelque chose pour rigoler. C'était une bande de joyeux fêtards qui n'hésitaient pas à se déguiser, à faire la bringue, à boire, comme il le disait, des tonneaux entiers de picrate, c'était très bachique comme fête, très festif. Et puis en même temps, qu'ils récoltaient des fonds pour aider les miséreux, parce que c'était, ils ont créé ça après-guerre, ici, après la Seconde Guerre mondiale, et il y avait pas mal de gens qui étaient dans le besoin. Donc les fonds récoltés étaient répartis sous forme, soit ils achetaient du charbon pour les gens qui n'en avaient pas, soit ils organisaient des goûters pour les gamins à Noël, soit, comme pendant la guerre d'Algérie, ils faisaient des colis pour les jeunes qui étaient partis là-bas. Donc ça a été tout un grand moment de solidarité et d'organisation interne par des gens qui étaient issus de la résistance, donc qui étaient très rigoureux. Donc il y a eu 3 maires successifs de cette commune libre, et puis qui s'est arrêté donc, dans les années, au milieu des années 60.
Donc commune libre de Figuerolles, aspect humanitaire, on va dire.
Humanitaire et festif, humanitaire et festif. Avec malgré que l'essentiel des membres soit des membres du Parti communiste, ils étaient très ouverts sur le milieu, l'autre partie de Figuerolles qui était cléricale, et ils avaient d'excellents termes avec les figures emblématiques du quartier, et notamment le père Bonnet, qui était adoré de tous, quoi, et ils organisaient des repas ensemble, et c'était la caractéristique de Figuerolles, c'est que vraiment on ne se faisait pas la guerre entre les clans. Alors, dès qu'il s'agissait de boire un coup, de raconter des histoires, tout le monde était partant.
Et par rapport à cette anecdote que vous nous racontez, il y avait une sorte d'ambiance positive générale, un vivre ensemble, on dirait aujourd'hui, oui. Général. Et quel était le lien donc de ce vivre ensemble figuerolien avec la ville-mère, le centre-ville,
ce côté-là, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire un village dans la ville. C'est-à-dire que le niveau relationnel des gens qui habitaient Figuerolles, qui était limité par un certain cercle, c'est-à-dire l'endroit où on peut aller à pied, quoi. C'était un petit peu ça la limite. On maîtrisait un domaine qui était accessible. Et c'était ça qui créait une communauté de vie, quoi. Le lieu faisait lien entre des gens. Et donc c'est vrai qu'il y avait une sorte d'indépendance avec le reste du quartier. Je me souviens d'un ancien coiffeur qui me disait que quand ils revenaient de la ville, de la Comédie ou autre, quand ils arrivaient au milieu de la rue d'Arru, ils disaient, bon, à partir de là, il ne peut plus rien nous arriver. Donc il y avait ce côté protecteur du quartier où on connaissait tout le monde et puis où on se sentait en sécurité. Donc il y avait cette notion de limites géographiques qui faisait que dans un secteur, on était les maîtres du monde.
Alors donc les maîtres du monde et un quartier où il faisait bon vivre ensemble, et cette image de Figuerolles un peu négative, elle date de quand, d'où? Parce qu'il y a aussi cette image, Figuerolles, bon, il y a un entre-deux aujourd'hui, bon, Figuerolles c'est un peu un coin privilégié, mais c'est aussi un coin, attention quoi, d'Angers.
Oui, alors ça, ça a toujours existé, parce que on a même, j'ai retrouvé des textes qui datent de, du début du 19e siècle, où on qualifie le quartier de Figueroles de quartier d'Apache. Et donc c'était, bon, il y avait déjà du peuple, hein, y a toujours eu une population gitane importante, qui sur le plan local, c'est toujours très bien entendu avec les habitants du quartier, mais de l'extérieur, les gens avaient l'impression de se trouver au milieu d'Indiens, hein, puisqu'ils appelaient les Apaches, et qui risquaient à tout moment de se faire scalper. Et alors que bon, y avait tous les anciens racontent que les gens sortaient de chez eux, installaient des chaises, discutaient, se faisaient passer des fonds de soupe qu'ils avaient organisées, il y en avait trop, ça circulait. Bon, il y avait tout le jeu des contrebandiers, hein, où il y avait beaucoup de contrebande à Figueroles, mais c'est-à-dire on cachait les choses d'une maison à l'autre pour que les douaniers attrapent pas. Les produits, il y a eu de la contrebande d'allumettes, vous vous rendez compte, d'allumettes, puis il y avait les doses pour fabriquer le pastis, puis il y avait des tas de produits qui circulaient. Bon, on était, pendant la guerre de 14, on a caché les déserteurs à Figueroles, il était hors de question que la maréchaussée puisse savoir où ils étaient cachés. On était dans une forme de solidarité qui est surprenante aujourd'hui, où on voit que la délation, il suffit de faire un appel et il y a beaucoup de gens qui téléphonent en disant qu'ils ont vu tel ou tel criminels passaient devant chez eux. Donc il y avait une sorte de tribu organisée, c'était rigolo. Mais de l'extérieur, effectivement, il y a toujours eu cette image négative le pire, ça a été dans les années 70, où peu à peu tous les commerces ont fermé, où l'immigration a commencé de façon un peu incontrôlée, un peu désordonnée, qui s'est mise à trancher avec le reste de la ville, et puis donc on a affublé, on a trouvé aussi des délits qui étaient commis ici, voire même sur certains journaux, on voit que des délits qui sont commis un peu plus loin sont rattachés à Figueroles, parce que le nom s'y prête, et bon, c'est vrai qu'on peut avoir une certaine image de marque négative qui a été un peu plaquée au quartier, alors que de l'intérieur, ça n'a pas toujours été vécu comme ça, de loin s'en faut.
Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien tous les deux, c'est l'été, les vacances. Oh mon Dieu, quelle chance! Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ma cabane est en planche. Et le lit n'est pas grand, mais tous les jours, c'est dimanche. Et nous dormons longtemps, à midi, sur la plage. Les amis de notre âge chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Chantent tous le ciel, le soleil et la mer, et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance en chantant le ciel. Le soleil et la mer, en chantant le ciel. Le soleil et la mer, quelque part en septembre, nous nous retrouverons, et le soir dans ta chambre, nous la rechanterons malgré le vent d'automne. Il est plus monotone.
de Guelte pour marquer la fin de la Commune libre. Alors pourquoi ?
Voilà, donc c'est pourquoi ? Bien parce que la Commune libre, à partir des années 60, a connu une chute en termes d'effectifs parce que les gens partaient, quittaient le Faubourg Figuerolles pour intégrer des villas dans le périurbain. Donc les forces vives disparaissaient. Et les gens de la Commune libre ont eu l'idée de faire venir François de Guelte pour organiser un concert. Et donc, c'était un chanteur qui était très très connu à l'époque, hein, qui avait un grand succès, et donc qui était cher. Et bon, le public n'a pas suivi, et la Commune libre n'a pas réussi à équilibrer son budget, peu aidé par la municipalité. Donc ça a achevé sa chute. Je ne sais pas si François de Guelte a été payé pour sa prestation, mais bon, ça a été le coup d'arrêt de la Commune libre.
La Commune libre tuée par François de Guelte.
Voilà, en quelque sorte.
C'est un scoop, ça. C'est un scoop. Alors, on est dans l'Occitanitude de Thierry Arquet. Vous l'avez bien compris, Thierry Arquet, c'est un figuerolien. Donc, il est complètement impliqué dans l'Occitanitude et dans ce que nous définissons comme cet ancrage dans la région, dans le périmètre montpelliérain, dans le périmètre figuerolien. Mais Thierry Arquet est quelqu'un donc qui a plusieurs cordes à son arc et notamment il a fait tout un travail sur la faculté de lettres puisqu'il est docteur en sociologie. Alors, c'était quoi cette volonté d'aller plus loin avec ce doctorat ?
C'est un peu un regret que j'avais de tout jeune de ne pas avoir suivi des études à la fac. Alors je me suis dit, à partir d'un certain âge, je me suis dit quand même, il faudrait que je me frotte à l'université. Donc j'ai passé plusieurs diplômes. Hein, et donc j'ai suivi tout le cursus universitaire pour en terminer avec le doctorat. Et le sujet de ma thèse en sociologie, ça a été le quartier de Figuerolles à Montpellier, imaginaire et lien social. Donc c'est à partir de cette thèse que vous pourrez trouver mon second tome sur Figuerolles à la Comédie du Livre cette année. De façon très, très facile à lire hein, aussi. C'est une thèse un peu pour les nuls, hein, on dira, je ne vais pas dire ça, mais c'est plus facile d'accès que la thèse dur qui est réservé aux universitaires.
Alors quand on dit imaginaire et lien social, bon là on y est en plein, mais pourquoi l'imaginaire ?
Pourquoi l'imaginaire ? Parce que toutes ces valeurs qui se développent entre les gens à Figuerolles, elles sont liées à des émotions. Et ces émotions, elles tiennent beaucoup à ce qu'on pense que les choses sont, plus qu'à ce que les choses sont réellement. Et est-ce que des choses peuvent être réellement sans des gens qui pensent à elle, je ne sais pas. Mais en fait, c'est pour ça que l'imaginaire est extrêmement présent dans tout ce qui peut se passer entre les gens au sein d'un quartier. Alors c'est sûr que le lien social, il y est lié au lieu. Hein. C'est le lieu qui fait lien dans cette histoire. Je comparais le quartier Figuerolles au palimpseste d'un manuscrit, hein, ce parchemin qu'on efface sur lequel on réécrit des histoires différentes. Eh bien, c'est tout à fait ça. Le quartier Figuerolles est l'endroit qui bouge tout le temps, qui change tout le temps, mais qui a un fond commun, c'est son lieu, son architecture, son histoire, enfin tout ce qui est inébranlable, tout ce qui est dur comme du roc.
Alors donc c'est inébranlable, vous avez dit, ça veut dire que ce quartier, il a une forme d'authenticité, voilà le mot que je cherchais.
Tout à fait.
Il a une forme d'authenticité. Et est-ce que les gens qui viennent vivre à Figuerolles ou qui vivent, sont différents.
Ah ben bien sûr, parce que là maintenant les temps ont changé et puis les problématiques sont complètement diverses. Là c'est un peu le hasard qui les conduit à habiter à Figuerolles. Mais il n'empêche que arrivé ici, bon, il y a déjà les lieux, l'ambiance, les odeurs, les couleurs. Et puis il y a ce qui est transmis par ceux qui sont là depuis plus longtemps. Et au fil du temps, la réalité du quartier Figuerolles finit par imprégner les nouveaux arrivés qui sont finalement figueroliens très rapidement. Être figueroliens, ça veut dire se sentir d'ici. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc je pense que beaucoup de gens réussissent avec une grande facilité à se sentir de Figuerolles.
Je crois que grâce à vous, Thierry Arquet, on est complètement dans le concept d'Occitanitude. peut-être plus que jamais aujourd'hui, avec ce concept d'appartenance, mmh. et de transmission, je dirais, et d'appartenance.
Voilà, oui. Oui, c'est tout à fait ça, Jean.
Eh bien, écoutez, je crois que là, on y est vraiment en plein, et peut-être que ça vous a aidé, vous, en tant qu'écrivain, puisqu'il y a aussi votre pari sur l'écriture, ça vous a aidé à l'écriture de votre polar sur Alerte Rouge, c'est Alerte Rouge, oui, Alerte Rouge à Figueroles.
Voilà, donc ça c'est un jeu qui est né au départ d'un atelier d'artistes qui s'appelle l'Atelier du Nord, qui réalisait un fanzine et qui m'avait demandé d'écrire tous les mois quelque chose. Alors je suis parti sur l'idée d'écrire un polar qui se passait à Figueroles. Et puis bon, très vite, je me suis rendu compte qu'il n'y a que 10 numéros, hein, puisque c'est à juillet, en août, il n'y en a pas. Que sur 10 numéros, les personnages avaient besoin de place. Et si 10 numéros à 2-3 pages à chaque fois, ça ne suffisait pas. Donc je me suis débrouillé pour que ça finisse la saison de façon harmonieuse, mais j'ai continué. J'ai continué, je me suis pris au jeu des personnages, pris au jeu de l'histoire, et j'ai dissimulé dans ce polar des personnages réels de Figueroles, que ceux qui connaissent reconnaissent très facilement, et ceux qui ne connaissent pas, bon ben voilà, ils lisent un polar comme les autres.
C'est une sorte de rébus alors.
Voilà, c'est un jeu de piste à usage
local.
À usage local.
Et vous avez donc eu un succès d'estime ou...
Ah oui, c'est très bien vendu. Hein, oui.
Donc c'est un roman, non, pas un roman, un polar, on va dire.
Un polar, un petit polar.
Un petit polar qui a été écrit sur Figueroles.
Don't you know that I'm loving you? In a god of a feeder, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my hand. Oh, won't you come with me? And I'll walk this land. In a god of Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand?
musique des années 68, oui. Ça nous replonge complètement dans votre jeunesse.
Voilà, donc ça c'est une chanson de mon adolescence, hein, puisque à l'époque on écoutait ça, on se faisait péter les tympans avec cette musique, donc qui est d'importance, enfin qui est amusante à plusieurs titres. Donc c'est le groupe Iron Butterfly qui joue un titre au nom bizarre, Inagada David. C'est savoir pourquoi ça s'appelle Inagada Davida, c'est assez rigolo, parce que ce que devait dire le chanteur, c'était In the Garden of Eden, en anglais. Donc, et par contre, il était tellement saoul qu'il a dit ça. Et puis finalement, c'est resté, donc c'est In the Garden of Eden, sous l'influence de l'alcool, et c'est devenu le titre. Donc c'était, en même temps, on adorait ça à ce moment-là, on l'écoutait entre nous. Et puis en même temps, c'est d'importance, parce que ça marque un changement musical. On passe du mouvement psychédélique, la musique psychédélique, au heavy metal. Et c'est un tournant important pour moi, pour, je pense, pas mal de gens de mon époque.
D'accord, et puis ça nous laisse un peu loin quand même des musiques occitanes.
Ah ça, je ne vous le fais pas dire, on n'était pas encore... On n'était pas encore dans l'occitanisme à ce moment-là, au niveau des ados. Comme aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'ados qui en sont un peu loin, hein, avec des styles de musique plus jeunes. Bon, il y a des époques où on est orienté vers des styles en particulier. C'est fonction d'un tas de choses qu'on ne maîtrise pas bien.
Mais ça ne vous a pas empêché, à un temps donné, de monter un festival sur la ruralité.
Voilà,
s'appelait le printemps des Bouzes. Alors racontez-nous un peu cette expérience, parce que quelque part elle vous éloigne un peu de Figueroles, mais quelque part elle vous replonge dans une ruralité profonde, puisque je crois que c'est le village de Vaquières.
De Vaquières. Alors bon, c'est lié au fait que j'avais une maison à Vaquières, dans l'Hérault, enfin je l'ai toujours d'ailleurs, petit village près de Saint-Mathieu-de-Trévise. Et puis que ce festival, il n'est pas si éloigné de Figueroles que ça, puisqu'il a été conçu à l'époque... En association avec l'ancien patron de la Pleine Lune, qui s'appelle Jean-Luc Lévesque, qui n'y est plus aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a conçu ce festival ensemble avec les musiciens du groupe Agatzebouz et quelques autres fêtards. On l'a conçu ici sur la terrasse de la Pleine Lune. Enfin, il n'y avait pas la terrasse à l'époque, hein, à l'intérieur du bar de la Pleine Lune. Après avoir bu quelques demi bien onctueux. Et donc on est parti d'ici pour créer ce festival là-bas, parce que Vaquières, ça signifie l'endroit où il y a des vaches. Et donc on a créé cet événement qui a perduré plus de 10 ans quand même. D'abord à Vaquières, puis dans d'autres lieux, dans d'autres villages. On est même allé à la vaquerie sur le Larzac. Vous voyez, on n'a pas cessé de circuler.
De rester dans la notion de vache.
Oui, toujours les vaches, oui. Oui.
Oui.
Fidèle aux vacheries de Figueroles.
Voilà. Mmh. Il y avait une sorte de cohérence dans votre démarche.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, ce printemps de Bouzes, c'était quoi, au-delà de la vacherie que vous portiez en vous, est-ce que il y avait une musique particulière à faire découvrir? C'était un festival sur la ruralité, sur le développement.
Voilà. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de styles de musique présentés. Et donc, il n'y avait pas un style imposé. Il y avait surtout le fait que on se sentait bien avec tel ou tel groupe. On avait envie de les faire venir. Ça a été les Ogres de Barbac. Il y a eu pas mal de choses. Et bon, Agatzebouz, bien sûr, etc. Il y a eu Daniel Villanova et même on a même invité une fois. Enfin bon, il y a eu pas mal de choses. Il y a une liste énorme. Hein. Il y a eu des musiciens classiques. Il y a eu une accordéoniste. Il y a eu bon. Et tout ça, chanson plus bifluorée, bon, enfin. Voilà, tout ça, on a organisé avec moult festivités de tout genre.
sommes dans l'Occitanitude de Thierry Arquet, figorolien toujours, on peut dire comme ça, figorolien toujours. Donc Thierry Arquet, une dernière corde, bien qu'il y en ait peut-être encore d'autres qu'on n'a pas dévoilées, mais une dernière corde sur laquelle j'ai envie de m'apesantir un petit peu, c'est... Un travail de presse. Je n'ose pas dire journaliste, mais plutôt intervenant dans le journal L'Héros du Jour. Je ne sais pas comment on peut vous classifier.
Oui, y a pas de, c'est une classification. Voilà, je suis collaborateur au journal L'Héros du Jour et j'y écris tous les dimanches une rubrique consacrée au patrimoine.
Et alors, qu'est-ce que vous attaquez comme sujet ?
Alors, c'est assez artistique puisque... L'Héros du Jour est un journal formidable dans lequel j'ai une grande liberté de choix de sujet. Et donc je me laisse aller à vagabonder sur les galaxies de ce qui se présente à moi. Et donc ça peut être tout ce qui a trait au patrimoine, qu'il soit matériel, immatériel, qu'il soit... passé, qui soit présent, à venir, c'est-à-dire la notion de patrimoine à venir, c'est des choses qui nous appartiendront plus tard. Et parfois je sens chez des gens l'expression de quelque chose qui est important aujourd'hui et qui le sera plus tard. Et donc dans cette mesure-là, je leur consacre une page.
Alors dites-moi, le patrimoine à venir, donnez-moi quelques exemples.
Tout ce qui a trait au phénomène émergent, de ces nouvelles communautés d'émotions qui se créent, c'est-à-dire des gens qui partagent un même ressenti pour une chose, ce qu'on appelle en sociologie des tribus, qui sont les nouvelles formes d'agrégation des gens qui vivent quelque part, c'est-à-dire ils se regroupent non plus géographiquement, non plus, mais autour de valeurs qui sont partagées soit par l'Internet, soit par... par d'autres biais, soit par le sport, soit par l'appartenance associative, soit par... Bon, il y a des choses comme ça qui sont nouvelles et qui se développent sans cesse, des nouvelles formes de générosité, de solidarité qui sont surprenantes. Et je considère que ça fait partie du patrimoine émergent et qu'il est important d'y prêter attention. Il ne s'agit pas simplement de s'occuper des momies égyptiennes qui présentent un intérêt certes, mais qui a déjà été largement développé. Donc, il y a une partie de mon travail qui consiste à sentir, à se mettre, à faire un peu tourner des tables.
Hein. C'est ce que notre ami Claude Alranc appellerait le patrimoine immatériel.
Oui, aussi.
Donc, écoutez, je crois que grâce à ce patrimoine immatériel et à vos écrits dans L'Héros du Jour, ça nous permet de faire un clin d'œil et de soutien à L'Héros du Jour.
Tout à fait. Il
y en a bien besoin, par les temps qui courent.
Voilà.
Et avec L'Héros du Jour, nous terminons cette balade dans la vie figorolienne de Thierry Arquet. Merci Thierry Arquet.
Merci Jean Tufaut.
Outsita. Attitude. Outsitanitude.
Une émission préposée par Radio Languedoc. Présentée par Jean Tufou. Et réalisée par William Baudry.